Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition consacrée à l'OTAN, à quelques jours de la réunion des chefs d'État et de gouvernement de l'Alliance Atlantique à Londres, les 3 et 4 décembre prochains. L'OTAN qui célèbre cette année ses 70 ans n'est pas à la fête. L'incursion militaire turque dans le nord-est de la Syrie a créé un choc au sein de l'organisation, choc qui pour les membres européens de l'Alliance est ajouté aux décisions de Donald Trump de retirer sans consultation les forces spéciales américaines de ce territoire stratégique dans la lutte contre l'organisation État islamique. Choc encore avec l'achat par la Turquie du système de missiles antimissiles russes S-400. Récemment, le président français dénonçait l'impuissance de l'OTAN, parlant d'une organisation en état de mort cérébrale et évoquait la nécessité de clarifier ses finalités stratégiques. Le basculement américain vers la zone pacifique et l'attitude de la Turquie sont autant de problèmes posés à l'OTAN. Les membres européens de l'Alliance sont particulièrement inquiets de savoir s'ils peuvent encore compter sur la Turquie dans les situations où la sécurité régionale de l'Europe serait en jeu. Regard sur une alliance secouée, fragilisée, voire obsolète avec nos invités. Le général Jean-Paul Perruche, ancien directeur général de l'état-major de l'Union européenne. Bonjour.
Bonjour.
Guillaume Lasconjarias, historien militaire et chercheur associé à l'IFRI, ancien chercheur au Collège de défense de l'OTAN. Bonjour.
Bonjour.
Et Jean-Pierre Moulny, directeur adjoint de l'IRIS, l'Institut des relations internationales et stratégiques. Bonjour.
Bonjour.
Avant le sommet des 3 et 4 décembre prochains à Londres, réunissant les chefs d'État et de gouvernement de l'Alliance Atlantique, les ministres des Affaires étrangères de l'organisation se sont réunis mercredi 20 novembre à Bruxelles. Beaucoup sont en désaccord avec l'évaluation faite par Emmanuel Macron, les Américains, mais pas seulement, l'Allemagne, la Pologne, les Pays-Baltes. Pourquoi les propos du président français ont-ils provoqué un tel tollé alors que Emmanuel Macron, finalement, n'a jamais fait que révéler une vérité cruelle dont plus d'un diplomate est conscient? Général Perruche.
Par rapport à l'OTAN, la plupart des pays souhaitent le maintien du statu quo, c'est-à-dire le maintien de ce que l'on a connu depuis la guerre froide et puis la période après la guerre froide. Et donc ne souhaite pas qu'on remue la boîte, si vous voulez. À un moment en particulier où des questions se posent sur la garantie de sécurité américaine, puisque le président Trump lui-même la remet en cause. Donc le fait que quelqu'un réveille un peu les démons dans la boîte gêne un grand nombre de nos partenaires qui, s'ils devaient renoncer à la garantie de sécurité américaine et envisager une autre posture de défense, seraient en très grand vertige, je dirais.
Il y a une vraie angoisse, Guillaume Lasconjarias, par rapport à la garantie de sécurité américaine. Et finalement, personne n'ose vraiment poser la question qui peut fâcher.
Alors, je pense qu'effectivement, il y a un point ici très net, c'est que Emmanuel Macron dit tout haut ce que beaucoup, véritablement, pensent et savent tout bas. Mais c'est une grande différence quand Emmanuel Macron donne cette interview dans The Economist. Le fait que ce soit un chef d'État n'a pas la même valeur que si c'était un think tanker, si c'était un politiste ou un article, finalement, dans la grande presse, finalement, ou une tribune dans Le Monde ou dans Le Figaro. Et donc, là, c'est la première différence. La deuxième aussi, c'est que ça vient après, finalement, 3 années déjà, depuis 2016, où l'Alliance a été chahutée avec le Brexit, avec l'élection de Trump, avec la montée des démocraties libérales, en Pologne, en Hongrie, etc. Et donc, finalement, on est vraiment dans un moment de tempête. Et est-ce que cette interview intervient au bon moment? Je suis pas certain. Le 70e anniversaire devait être une année où l'Alliance finalement se ressoudait. Là, on a l'impression, en fait, que ça dessoude plutôt dans tous les coins.
Jean-Pierre Moulny.
Je pense qu'il y a deux choses. La première, c'est que vous avez un certain nombre de pays dans l'OTAN, notamment les pays d'Europe de l'Est et puis d'Europe du Nord, qui sont très inquiets de la Russie, de la résurgence de la menace russe. Et donc, pour eux, l'OTAN, c'est l'ultime garantie. Donc, les propos qu'on entend de ces pays-là, c'est « il fallait pas dire ça parce que ça affaiblit l'article 5, parce que ça affaiblit l'OTAN, parce que ça va faire partir les Américains ». Donc, effectivement, il y a une volonté de statu quo. Et en même temps, effectivement, l'OTAN, aujourd'hui, elle est victime du fait que c'est à la fois une alliance militaire, mais c'est un organe politique. Mais l'organe politique peut pas jouer son rôle parce que c'est une alliance militaire, parce que les pays sont divisés. Et finalement, Emmanuel Macron, il a aussi posé le problème, parce qu'on s'est retrouvé dans une situation avec l'épisode turc en Syrie du Nord, où vous avez deux pays de l'alliance, la Turquie et les États-Unis, pays qui ont joué contre les intérêts de sécurité de la France et des Européens. Donc, à un moment donné, il fallait quand même mettre la question sur la table. Il l'a fait. Je pense qu'il n'est pas totalement isolé. On a vu d'ailleurs qu'il y avait des propositions qui avaient été faites par le ministre des Affaires étrangères allemand sur une réflexion sur le futur de l'Alliance. Et c'est plus, finalement, sur la forme qu'il y a une opposition au propos de Macron que, effectivement, sur le fond.
Alors, effectivement, le chef de la diplomatie allemande qui a proposé à Bruxelles, donc cette semaine, la constitution d'un comité d'experts présidé par le secrétaire général Jens Stoltenberg pour renforcer le processus politique au sein de l'Alliance, donc cette organisation militaire. Alors, quelques mots pour rassembler un petit peu les idées. On a évoqué les États-Unis, on a évoqué la Turquie. Concernant les États-Unis, le fait que Washington n'ait pas communiqué sur son départ du nord-est syrien, ça a été, ne serait-ce que pour les forces françaises, général Perruche, elles se sont retrouvées en plan, sans moyen d'évacuer leur matériel lourd, et la France a considéré qu'elle avait été traitée par les Américains comme un supplétif de deuxième ordre. Et puis l'autre question, c'est celle de la Turquie, avec cette question finalement, est-ce que si le gouvernement syrien venait à répliquer contre la Turquie, est-ce que l'article 5 serait à agiter, général Perruche?
Oui, ça fait beaucoup de questions en une seule. Trois remarques à ce sujet. La première chose, c'est que le désengagement américain de cette partie du Moyen-Orient a bien fait ressortir le rôle complémentaire que jouent les autres armées dans cette coalition, dont les États-Unis sont incontestablement le leader, même si l'armée française en particulier a contribué significativement. Mais enfin, on voit bien que la décision appartient aux États-Unis. Ça ouvre sur ma deuxième remarque, c'est qu'il ne faut jamais oublier, lorsqu'on parle de l'Alliance Atlantique, mais de toutes les alliances avec les États-Unis, que les États-Unis, vu leur puissance, sont toujours les défenseurs de leurs propres intérêts, et que ce qui compte dans l'Alliance Atlantique, comme dans toutes les alliances avec les États-Unis, c'est les intérêts de sécurité des Américains. C'est ça qu'il faut toujours avoir à l'esprit. Et c'est vrai aussi
Qu'on a tendance un peu à oublier,
parce que chacun voit évidemment midi à sa porte, en particulier les États d'Europe qui ont été cités tout à l'heure, et qui pensent que la garantie de sécurité américaine est absolument implicite, qu'elle arrivera quoi qu'il arrive. Eh bien, la situation dans cette partie donc de nord de la Syrie illustre le contraire. On voit bien que lorsque les intérêts de sécurité, en tout cas jugés comme tels par le président des États-Unis, ne correspondent plus à la situation hantée, les États-Unis s'en vont et les autres se débrouillent. Bon, on a vu les États-Unis quitter le Vietnam, on voit les États-Unis aujourd'hui se désengager d'Afghanistan, on voit les États-Unis après leur opération en Irak aussi, qui a un certain désengagement, on les voit se désengager maintenant du Moyen-Orient. On voit bien que la position d'alliés des États-Unis, pour être assurée, doit tenir compte en premier lieu des intérêts de sécurité américains et de ce que le président des États-Unis en pense. La troisième remarque sur la Turquie, on voit que la Turquie a effectivement fait une mise à jour de sa politique étrangère et de sécurité, et qu'on voit aujourd'hui le président Erdogan, j'allais dire, si j'osais, prendre une attitude un peu gaullienne et une politique d'équilibre entre la Russie et les États-Unis, en faisant un peu monter les enchères de chaque côté, et pour lui aussi réaliser les objectifs de la politique étrangère, en tout cas de ce qu'il pense comme bon pour son pays en politique étrangère.
Alors, on va continuer à parler, bien sûr, des États-Unis. Quelques mots sur la Turquie. L'achat par la Turquie du matériel russe S-400, c'est vrai que ça pose aujourd'hui un problème à l'Alliance. Et de ce que vient de dire le général Perruche, finalement, ce que j'entends, c'est qu'il y a un manque de confiance qui s'est instillé dans l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Qui veut répondre, Jean-Pierre Molnier?
Je ne sais pas si on peut parler de manque de confiance. Encore une fois, le fait qu'on ait des intérêts de sécurité divergents, c'est un fait objectif. Ce n'est pas une question de confiance. Sur la question de la Syrie, d'une certaine manière, il s'est répété le même épisode qui s'était passé sur le retrait des États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien. Ça date pas d'hier que le président des États-Unis a dit « je veux me retirer de Syrie ». Alors effectivement, quand il l'a fait brutalement. Mais c'était aux Européens aussi de s'organiser. face au retrait de Syrie qu'allait se préparer par les États-Unis, c'était aux Européens d'organiser une réponse. Finalement, dans un cas de figure comme ça, je suis pas certain que la réponse soit au sein de l'Alliance Atlantique. Ce qu'on aurait pu constater au sein de l'Alliance Atlantique, c'est simplement les divergences d'intérêts entre les uns et les autres. Et ce qui est peut-être nécessaire d'ailleurs en revanche, plutôt que de faire un consensus mou ou un faux consensus, comme a essayé de le faire le secrétaire général de l'OTAN dans les jours qui ont suivi. Mais là c'est aux Européens, et je pense que c'est aussi le message dans l'interview d'Emmanuel Macron à The Economist, c'est dire, bon, il est temps aussi, nous Européens, de se réveiller face à nos questions de sécurité qui ne pourront pas être traitées par les États-Unis et donc qui ne pourront pas être traitées par l'OTAN.
Alors, la Turquie, pour en revenir à elle, je me tourne vers vous, Guillaume Lascandjarias, elle pose aujourd'hui un réel problème.
Alors, la Turquie, en fait, sa posture est problématique. Elle est doublement en fait problématique. C'est-à-dire que depuis 2016 et le coup d'État manqué contre Erdogan, finalement, en veut à ses alliés, objectivement, de ne pas avoir été suffisamment à l'écoute de ce qui était en train de se passer. Et clairement, en réalité, ce qu'il jette aujourd'hui au regard des Européens et des Américains, finalement, c'est exactement ce qu'il reproche que les Américains et les Européens n'ont pas fait en 2016, c'est-à-dire sont restés véritablement assis et n'ont pas suffisamment écouté le message qui était lancé par Istanbul. Le problème, c'est que la Turquie reste quand même dans une position stratégiquement essentielle. C'est-à-dire que c'est quand même le pays qui borde et qui sécurise véritablement le flanc sud, où l'OTAN a des intérêts très nets. Il y a une base, la base d'Inchirlik, qui est doublement à la fois et américaine et otanienne. Américaine parce que les Américains y ont stocké notamment des bombes nucléaires. Mais c'est aussi le centre du LENCOM, du commandement des forces terrestres de l'OTAN. Donc on voit bien cette espèce de difficulté pour l'OTAN d'être capable de faire quelque chose qui joue finalement contre ses propres intérêts, puisque le lockout de la base d'Inchirlik a déjà eu lieu plusieurs fois et qu'il y a déjà eu des menaces véritablement presque avec des manifestations devant, et donc il y a une sorte de hold-up de cette situation. Et puis le troisième point, c'est que effectivement Erdogan a ses propres intérêts que les Européens et les Américains soit n'écoutent pas, soit considèrent comme étant toujours finalement les mêmes, sauf que ce n'est plus Nevariatur, ça change et ça évolue aujourd'hui très rapidement. Le rapprochement finalement avec la Russie, il a eu lieu de manière presque surprenante à partir de 2015, alors que c'était plutôt mal parti, avec l'avion russe qui avait été abattu par la chasse turque. Aujourd'hui, je dirais pas que ce sont les meilleurs amis du monde, mais quand on voit notamment dans le processus d'Astana, c'est la Turquie, l'Iran et la Russie, et les États-Unis ont un siège, un strapontin, et les Européens sont même pas quasiment conviés dans la salle. On est véritablement en dehors de ce qui est en train de se jouer au Moyen-Orient, et c'est pour ça que abandonner la Turquie en race campagne, c'est pas forcément une bonne chose non plus. C'est-à-dire que la crispée n'est pas finalement jouée pour nos propres intérêts de sécurité. Surtout quand Erdogan agite ensuite le chiffon rouge des migrants.
Alors finalement, on est dans une situation, Général Perruche, où on ne veut crisper personne. Alors Donald Trump, qui a des soucis aujourd'hui avec la question ukrainienne. Erdogan, qu'on ne veut pas froisser non plus. Pourtant, des voix se sont élevées pour dire qu'il fallait peut-être que la Turquie quitte l'OTAN. C'est compliqué.
Oui, c'est compliqué. Je pense qu'il n'est pas souhaitable de rajouter de la division à la division à cette période-ci. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on est dans un monde, dans un contexte sécuritaire dans lequel les nations reprennent la méthode des rapports de force pour accomplir leurs intérêts, en général, leurs intérêts de sécurité en particulier. Alors, le président Trump a donné le ton, le président Poutine aussi. Et on voit maintenant un peu partout dans le monde des dirigeants plus ou moins démocratiques prendre des attitudes carrément nationalistes. Donc on semble retourner vers un monde de nations juxtaposées qui n'ont à la tête que leurs propres intérêts, et on sait bien vers quoi cela conduit. On en a l'expérience. Et c'est très dommage parce que ça se substitue à un système dans lequel, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale et surtout après 1980, 90, la fin de la guerre froide, on semblait aller vers une organisation multinationale du monde dans laquelle chacun était conscient que ses propres intérêts dépendaient un petit peu des intérêts des voisins. Donc on a vraiment là eu une rupture dans cette époque-ci et on ne peut qu'être inquiet, en tout cas pour ma part je le suis, sur l'évolution des choses dans le domaine de la sécurité et on le voit bien d'ailleurs avec ce délitement de l'Alliance Atlantique. Moi je pense que le partenariat avec les États-Unis est quelque chose de très important, en particulier dans cette période-ci, et que nous serions bien fondés à essayer de resserrer les liens entre nous dans une période où effectivement c'est moins évident qu'avant. Parce que ce qui fait la solidité d'une alliance finalement entre des États, c'est ce qui les menace en commun. On l'a très bien vu à l'époque de la guerre froide où on avait pu mettre au point des plans de réaction à une invasion de l'armée rouge qui était pratiquement réflexe. Si l'armée rouge franchissait la frontière entre les deux Allemagnes, immédiatement les plans se mettaient en œuvre. On n'est plus du tout dans cette situation-là. Et c'est pour ça qu'il faut chercher maintenant, par le dialogue, des accords qui permettent à chacun de faire valoir ses intérêts sans compromettre celui des autres. Ce que ne fait pas, à mon avis, le président Trump.
Alors, pour en revenir et terminer cette première partie d'émission sur cette question, il nous reste 3 minutes. Jean-Pierre Mouly, juste, Général Perruch, vous n'avez pas vraiment répondu à la question de
non,
savoir si la Turquie pouvait quitter l'OTAN. En fait, c'est très compliqué, c'est-à-dire que c'est une décision qui doit être prise à l'unanimité, en la Turquie faisant partie, donc il ne pourra jamais y avoir unanimité sur cette question. Autre chose par rapport à la convergence que nous évoquions entre la Russie et la Turquie, il va sans dire, Jean-Pierre Mouly, que la Turquie intéresse la Russie parce qu'elle fait partie de l'OTAN.
Oh, je pense pas uniquement. Je pense qu'il y a quand même une question régionale. La Russie veut être un acteur régional au Proche-Orient. Donc, la Turquie est un pays avec lequel la Russie veut dialoguer. Le paradoxe de la situation actuelle, c'est que la Russie est le seul pays qui dialogue avec la Syrie, avec la Turquie, avec l'Iran, avec l'Arabie Saoudite et avec Israël.
Elle parle avec tout le monde.
Elle parle avec tout le monde. Ce que n'arrivent pas à faire les Européens, par exemple, et ce que ne font pas non plus les Américains, tout au moins avec l'Iran. Si on revient à la question de la Turquie, je pense qu'on a du mal à gérer la Turquie aujourd'hui, mais je pense qu'en même temps, personne n'a véritablement envie que la Turquie sorte de l'OTAN, et la Turquie n'a pas non plus envie de sortir de l'OTAN et n'a pas intérêt à sortir de l'OTAN. Quand il y avait eu cette affaire, effectivement, avec l'avion de chasse russe qui avait été abattu par les Turcs avaient demandé à ce moment-là la solidarité de l'OTAN et le déploiement de batteries de défense antimissile en Turquie. Non, je pense que la Turquie a des intérêts de sécurité. En fait, c'est vraiment la question kurde. Et encore une fois, je pense que c'est un épisode qu'on n'a pas su anticiper. Parce que là aussi, c'était quand même assez facile de deviner à l'avance qu'à un moment donné, effectivement, les Turcs déclencheraient une opération militaire au nord de la Syrie. Et c'est typiquement le type d'événement qu'il faudrait débattre au sein de l'OTAN. Seulement, le problème, c'est que si on débat de ces questions-là au sein de l'OTAN, on met une question qui est conflictuelle autour de la table et qu'on est dans une situation à l'heure actuelle au niveau de l'OTAN où, au fond, personne n'a envie d'avoir des débats conflictuels parce que tout le monde a peur que les États-Unis se retirent de l'OTAN à cause de Donald Trump. Et donc, il ne se passe rien, ce qui explique effectivement cette réflexion des tas de mort cérébrale. Après, on a une vraie difficulté quand même avec les États-Unis, qui est qu'il faut quand même, c'est pas facile de lire exactement quelle est la politique des États-Unis. Si on prend la question de la Syrie, le général Mattis, je pense qu'il aurait été, l'ancien donc secrétaire d'État à la Défense américain, il aurait été pour le maintien des troupes des États-Unis en Syrie. C'est une décision de Donald Trump. Et c'est une décision de Donald Trump, écoutant ses citoyens, ayant une réélection dans un an, et qui se dit, ma réélection, elle passe pas par le déploiement de soldats américains à l'extérieur. Ma population, elle veut que mes soldats américains rentrent aux États-Unis.
Alors, personne ne veut d'un débat conflictuel au sein de l'OTAN et les États-Unis sont difficiles à lire. C'est ce que je retiens de ce que vous venez de dire, Jean-Pierre Mouly. On vous retrouve ainsi que Guillaume Lascon-Jarias et le général Jean-Paul Perruch. Après le journal, à tout de suite.
Géopolitique. Marie-France Chatin.
Géopolitique, regard sur l'OTAN dans la perspective du prochain sommet des 3 et 4 décembre à Londres, réunissant les chefs d'État et de gouvernement de l'Alliance Atlantique. Nous retrouvons nos invités, le général Jean-Paul Perruche, ancien directeur général de l'état-major de l'Union européenne, Guillaume Lascondjarias, historien militaire, chercheur associé à l'IFRI et ancien chercheur au Collège de défense de l'OTAN, et Jean-Pierre Momny, directeur adjoint de l'IRIS, l'Institut des relations internationales et stratégiques. Nous avons quitté la première partie de l'émission en abordant la question de la Turquie. Quel était son rôle aujourd'hui dans l'OTAN, Guillaume Lascondjarias? La question aussi qui se pose par rapport à la Turquie, c'est, on parlait de la convergence avec la Russie, en cas de conflit ouvert en mer Noire ou au Donbass ou dans la Baltique, qu'est-ce qu'elle ferait la Turquie?
Alors, le point essentiel, c'est quelle lecture donne-t-on de l'article 5 ? L'article 5 du traité de Washington, donc de 49, c'est un peu l'article des mousquetaires, donc un pour tous, tous pour un, mais avec une subtilité, c'est que les alliés s'engagent, au moment de la déclaration de l'article 5, à mener des actions en soutien de l'allié ou des alliés qui seraient attaqués, jusqu'à l'emploi de forces militaires. C'est-à-dire qu'en fait, la condition d'un soutien militaire au cas où, prenons cet exemple, les forces de Bachar el-Assad attaqueraient les troupes turques en Syrie, eh bien là, on se retrouverait face à un cas intéressant, parce qu'on se retrouverait finalement dans la posture de l'arroseur arrosé. Est-ce que dans ce cadre-là, l'article 5 peut s'appliquer? Ça, c'est une première question. La deuxième, c'est que jusqu'à présent, on a vu la Turquie, par le passé, être très impliqué, par exemple, dans le cadre de la Force internationale d'assistance et de sécurité en Afghanistan. La Turquie commandait le commandement régional de Kaboul. Donc la Turquie, quelquefois, joue le rôle d'allié et d'allié, finalement, qui ne pose pas de problème. On voit des officiers turcs dans les états-majors de l'OTAN. Alors ensuite, il y a eu, effectivement, depuis 2016, une sorte de chasse aux sorcières. Et on peut se poser aujourd'hui la question de l'état d'excellence qui est celui de l'armée turque. Je suis plutôt sceptique sur aujourd'hui la capacité des Turcs à peser militairement dans un conflit ouvert avec qui que ce soit. C'est pour ça que je serais assez prudent sur l'idée d'aventure militaire que la Turquie continuerait. D'ailleurs, en Syrie du Nord, l'opération se terminera, à mon avis, avec des petits résultats.
Général Perruche, vous souhaitez rajouter quelque chose?
Simplement dire que je reviens à mes remarques sur les intérêts de sécurité qui sont toujours premiers dans toute participation d'État à un conflit. Comme le soulignait Guillaume Lascondjarias, il y a la possibilité, en respectant tout à fait le traité de Washington, de faire l'effort que l'on veut adapter à chaque situation en fonction de ses propres intérêts. Vous pouvez affirmer une solidarité de principe ou carrément engager toute votre armée. Ça dépend de la manière dont vous ressentez cette menace pour l'Alliance, mais surtout pour vous-même en tant qu'État. Donc, pour tous les scénarios que vous évoquiez tout à l'heure, il y a une réponse adaptée de la Turquie qui sera forcément moins engagée en mer Baltique et qui sera un peu plus engagée plus ça se rapproche de ses frontières. Voilà. Mais je crois que tous les États réagissent de la même façon.
Alors, Jean-Pierre Molny, vous l'avez dit, personne ne veut de débats conflictuels au sein de l'OTAN. Les États-Unis sont difficiles à lire. On a bien compris cette inquiétude quant à un possible départ des Américains. En tout cas, les inquiétudes, elles ne sont pas nouvelles. Ce qui est nouveau, c'est les critiques ouvertes, comme celles lancées par Emmanuel Macron. La question qui se pose est, est-ce que la France est isolé, pas isolé. Qu'est-ce que l'on peut imaginer quant aux suites de cet électrochoc lancé par le président français, du French bashing, et à quoi tout cela peut-il mener, Jean-Pierre Molny?
Je pense qu'il y a plusieurs questions. D'une part, on a vu quand même qu'il y a un début de réaction par rapport à l'interview dans The Economist, puisque le ministre des Affaires étrangères allemand a fait des propositions pour qu'il y ait une réflexion sur l'Alliance. Immédiatement après, le ministre des Affaires étrangères français, Jean-Yves Le Drian, a fait également une autre proposition. On peut penser que tout ça sera quand même discuté au sommet de l'OTAN les 3 et 4 de décembre à Londres. Bon, il faut bien voir que derrière tout ça, il y a d'autres questions qui se posent à l'heure actuelle au sein de l'Alliance Atlantique.
Lesquelles?
Il y a la question de la clé de répartition du financement des États membres où les États-Unis veulent que les Européens contribuent plus. donc et qui est sur la table, et il y a eu un début de négociation avec les Allemands. Il y a aussi toutes les initiatives européennes qui sont en cours, coopération structurée permanente et fonds européen de défense. Enfin, je ne vais pas détailler, mais disons que les Européens veulent s'organiser beaucoup plus entre eux et coopérer beaucoup plus entre eux en termes d'armement. Et là, il y a une montée au créneau des Américains extrêmement forte et extrêmement violente pour, en fait, je ne vais pas dire interdire ces initiatives, mais faire que ces initiatives ne sont plus des initiatives européennes, mais des initiatives où les Américains participent pleinement. Quand je dis participent pleinement, ça veut dire que ça ne leur est pas interdit à l'heure actuelle. Mais là, la lutte est extrêmement forte. Et j'ai envie de dire, c'est vrai qu'on a tendance à voir la Commission européenne avec la France pour essayer de défendre les initiatives européennes telles qu'elles sont présentées actuellement. Et puis, bah, effectivement, une pression très forte des Américains sur nos partenaires européens, qui fait que ça a tendance à nous isoler, pour ouvrir toutes ces initiatives aux Américains. Donc c'est un enjeu principal à l'heure actuelle. C'est-à-dire, derrière l'OTAN, il y a la question de l'Union européenne.
Alors, moi, j'ai vraiment un problème face à l'attitude des États-Unis. Je me tourne vers vous, Général Perruche, Guillaume Lascandarias. Finalement, on ne sait pas très bien quelle est leur ligne. Qu'est-ce qu'ils veulent, les Américains ? Est-ce qu'ils le savent eux-mêmes ? Est-ce qu'ils communiquent mal ? Alors, c'est demander aux Européens de participer, enfin, aux pays membres de l'OTAN de participer davantage, qu'il y ait plus d'équilibre dans les répartitions des financements des États membres. Jean-Pierre Mouligny l'évoquait à l'instant. Et puis surtout, c'est prenez de l'indépendance, mais finalement, pas trop non plus, il faut que vous restiez avec nous.
Tout à fait, vous avez raison. Il ne faut jamais perdre de vue que pour les États-Unis, et en particulier pour la représentation, les élus américains, que ce soit au Congrès ou même le président lui-même, la politique étrangère est toujours accolée, pour ne pas dire soumise à la politique intérieure, à la politique à l'intérieur des États-Unis, en particulier ce processus électoral pour le président qui se renouvelle tous les 4 ans. Donc le président Trump, il est actuellement en campagne déjà. Et donc il faut jamais perdre de vue que l'objectif des États-Unis, c'est donc la réélection du président dans un peu plus d'un an, et que par conséquent, il faut que le président montre d'une part qu'il a à peu près fait ce qu'il avait annoncé lors de l'élection précédente, et que d'autre part, il offre une perspective à l'opinion publique américaine qui soit favorable, c'est-à-dire rapatrier les boys à la maison, parce que les États-Unis ont quand même eu pas mal de pertes dans les opérations des 30 dernières années.
Il faut dire aussi qu'ils se sont lancés dans des aventures
comme ça. Donc le vent souffle en sens inverse, et le président Trump l'a bien compris. Vous avez toute une partie des républicains, mais vous avez aussi une frange chez les démocrates qui est pour une empreinte réduite, en particulier des forces américaines, dans les différentes crises du monde, ce qu'ils appellent le light footprint. Hein. Et donc, pour aller dans ce sens-là, le président Trump gomme un petit peu les aspérités au Moyen-Orient, parce qu'il considère que les enjeux, hormis les enjeux du pétrole et les enjeux économiques, c'est d'intérêt réduit pour les Américains. Ils n'ont pas véritablement de solution politique, comme ça a été signalé tout à l'heure, pour un but à atteindre avec une situation d'équilibre politique réalisée. Ça leur paraît très, très complexe. Et donc, dans cette période d'incertitude, ils souhaitent un petit peu laisser retomber les choses, et ça explique que les Américains se replient. Voilà, je crois qu'on ne peut pas en dire beaucoup plus. Après, ce qu'ils ont en tête en matière de géostratégie, c'est la rivalité avec la Chine. Et tout doit être examiné autour de ça.
Dont on va parler, mais Guillaume Lascandarias, cette peur panique au sein des membres de l'OTAN de voir les Américains s'en aller, c'est aussi méconnaître d'une certaine manière ce qui prévaut aujourd'hui à Washington, c'est-à-dire un congrès américain et un establishment militaire américain qui n'est pas prêt à tirer un trait sur l'OTAN.
Et tout à fait, c'est ça en fait l'ambiguïté majeure. C'est-à-dire que lorsqu'il y a eu, à l'automne dernier, les premières tensions autour d'un potentiel départ de l'OTAN qui sera annoncé par Trump, on a eu deux événements quasiment coup sur coup. On a eu à la fois la démission de James Mattis, qui était en fait un véritable camouflet, parce que à ce moment-là, on a dit que c'était le dernier adulte qui quittait le gouvernement. Et puis Mattis, c'était véritablement un fervent supporter de l'alliance. Mais à côté de ça, on a eu une alliance de circonstances entre les républicains et les démocrates à la Chambre pour interdire de facto une sorte de d'initiative présidentielle, donc de Trump lui-même, qui viserait à dire comme ça du jour au lendemain « je quitte l'OTAN ». Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que la grille de lecture des États-Unis en cette matière, elle est toujours extrêmement ambivalente, pour pas dire totalement schizophrène. Un exemple, on voit dans la presse, à chaque fois, c'était le cas la semaine dernière, cette adresse à quasiment tous les pays asiatiques en demandant à eux aussi de payer plus pour notamment abriter ou faire leur partenariat avec les forces américaines. Donc il n'y a pas que l'Europe. Ouais. On a vu ça ailleurs, ça c'est la première chose. La deuxième, c'est que dans le même temps, si on regarde bien pour l'année fiscale 2019, le coût de ce qu'on appelle l'initiative de réassurance américaine ou européenne, c'est-à-dire les forces américaines qui sont déployées au profit de l'Europe pour protéger l'Europe, eh bien, en fait, ce budget fiscal ne cesse d'année en année de progresser. C'est-à-dire qu'on a les déclarations tapageuses de Trump, et puis la réalité, c'est que il y a, presque dire, toujours plus d'argent, toujours plus de boys. C'est ça qui rend les choses extrêmement compliquées. Parce que on a quand même cette vision que Trump veut aussi renvoyer à son propre électorat, et je partage le point de vue du général et de Jean-Pierre là-dessus. C'est-à-dire qu'on est véritablement sur un Trump qui est déjà dans une posture électoraliste, mais je vais presque dire, il suffit qu'il y ait quelque chose d'important qui se passe ailleurs pour que le portage change.
Alors, la sortie d'Emmanuel Macron, il est vrai que, Jean-Pierre Molny, la France, elle n'est pas en reste. Hein, elle est présente sur beaucoup de terrains. Je voudrais en revenir à la crise actuelle de l'OTAN. C'est pas la première crise. La plus récente, celle de 2003, quand les États-Unis et une partie des alliés sont partis en Irak détruire le régime de Saddam Hussein, et qu'une partie emmenée par les Franco-Allemands ont refusé. Qu'est-ce qui fait la spécificité de la crise actuelle ?
La spécificité de la crise actuelle, c'est déjà les propos de Donald Trump. Maintenant, je partage l'idée de Guillaume, il n'y aura pas de retrait des États-Unis de l'OTAN. C'est un moyen pour faire pression le discours actuel sur les Européens, pour qu'ils payent plus, et même éventuellement, surtout en achetant du matériel américain. La stratégie, il la connaît. Et il y a aussi une tentative de division des Européens entre eux, parce que je pense que la politique de réassurance, elle se fait plus sur une base bilatérale que dans le cadre de l'OTAN en elle-même. Je pense que la spécificité de la crise actuelle, c'est véritablement ces questions, malgré tout, de divergence d'intérêts avec les États-Unis sur un certain nombre de dossiers majeurs. La Syrie en est un, mais finalement pas tant que ça. Le dossier iranien est peut-être un dossier plus important sur la question de la divergence d'intérêts avec les États-Unis. On a vu également la décision que vient de prendre le président des États-Unis sur Israël et la Palestine, qui est en complète opposition.
Déclarant que les colonisations n'étaient pas illégales.
Voilà, donc ça fait que il y a effectivement des divergences d'intérêts qui sont de plus en plus grandes. Et puis, il y a quand même, et ça c'est sur le long terme, et c'est pas lié à Donald Trump, ça avait commencé avec Barack Obama, il y a le fait qu'effectivement, pour les États-Unis, l'ennemi, si je puis dire, c'est la Chine. Et que donc, les États-Unis, ils vont regarder de plus en plus vers la Chine, et qu'ils demandent, ce qui est légitime d'ailleurs, hein, aux Européens, de prendre plus en compte leur sécurité. Et ce qui fait qu'à un moment, il y a quand même une interrogation, j'ai envie de dire plutôt sur le niveau de la garantie de sécurité américaine.
C'est-à-dire ?
Concrètement, si y a un incident, on va dire, qui est un petit peu en dessous de l'incident militaire majeur, mais qui peut être important dans les pays baltes ou quelque chose comme ça, est-ce que véritablement les États-Unis sont là ? Est-ce qu'ils seront véritablement prêt à sacrifier des soldats. Il y a quand même des interrogations sur le sujet, et ça vient tout simplement de la politique des États-Unis à l'heure actuelle. Il faut véritablement que les Européens prennent mieux en compte leur sécurité.
Interrogations qui sont partagées, puisqu'on parlait de l'Asie, également par le Japon, notamment. Mais bon, on sort du sujet, mais la Corée, bien sûr. Général Perruche, alors la Chine, dont on peut rappeler qu'elle a le deuxième budget militaire du monde, qu'elle est aussi très présente dans le cyberespace. Il est important, de fait, que l'OTAN se positionne face à la montée en puissance de la Chine. Qu'est-ce qui fera du sommet des 3 et 4 décembre prochains un sommet réussi ? Russie ou pas. On sent bien que le président Macron a souhaité réveiller un petit peu ce petit monde. Général Pérusse.
Oui, si vous le permettez, je vais faire une dernière remarque sur la question précédente des intérêts américains et de l'OTAN et de l'Union européenne. Moi, j'ai une interrogation qui est une crainte, c'est si nous nous retrouvions dans la posture dans laquelle la Turquie ouvrirait les portes à la pression migratoire, avec donc un problème vraiment là, cette fois-ci stratégique pour les Européens, et l'Union européenne serait obligée de prendre des mesures qui, cette fois-ci, contrarierait certainement l'unité d'action ou en tout cas la proximité des membres de l'OTAN. Vous voyez ce que je veux dire?
Avec les Américains qui en plus ont dit que ça n'était surtout pas leur problème.
C'était pas leur problème, voilà. C'est ma principale interrogation, j'allais dire, pour le court terme. C'est une inquiétude et à mon avis, on devrait s'y pencher avec beaucoup d'attention.
En tout cas, c'est une puissance de levier très forte pour le président.
Tout à fait, ça va conditionner beaucoup de choses et peut-être que le président d'ailleurs partage cette inquiétude. Je réponds maintenant à votre question sur le sommet de l'OTAN. Je pense que on ne souhaitera pas exposer les divisions de l'OTAN au monde entier et montrer que c'est la zizanie chez les alliés occidentaux. Donc, moi, je m'attends à des discussions vigoureuses à l'intérieur de l'OTAN et en particulier dans les couloirs, mais à une synthèse assez consensuelle à la fin, dans laquelle on ne gommera pas les difficultés de l'OTAN, mais où on affirmera la volonté des alliés de les résoudre ensemble.
Et le secrétaire général de l'OTAN sera précisément cette semaine à Paris pour rencontrer le président Macron, essayer de comprendre quelles sont ses critiques. Guillaume Lascandjarias, sur le sommet des 3 et 4 décembre prochain à Londres.
Alors, déjà, je pense que la photo de famille sera belle, comme toujours. Parce qu'on ne peut pas exposer les divisions, mais surtout parce que on a vu après la première vague de reproches faites à Macron, des avancées, y compris de la part des Allemands, qui ont été à la fois les plus vifs dans les critiques et qui immédiatement se sont saisis de cette question en disant « bon, il faudrait faire des choses ». Alors là encore, le recul de l'historien, c'est de se dire « alors il y a peut-être des spécificités actuelles à la crise, mais c'est pas la première fois que l'OTAN s'interroge sur notamment sa capacité de prise de décision ». Alors c'est vrai qu'autrefois on n'était pas quasiment 29 et maintenant 30, donc c'était peut-être un tout petit peu plus facile, mais pas véritablement. Dans les années 60, on a eu déjà cette espèce de double approche, ce qu'on appelait le Track 2 Diplomacy, qui avait été mené justement pour essayer de permettre à l'OTAN d'avoir une approche à la fois ce qu'on appelait déterrence, c'est-à-dire dissuasion, défense, mais dans le même temps d'avoir un côté approche diplomatique. À l'époque, c'était vis-à-vis d'un même adversaire, donc c'était plus simple. Mais on a eu d'autres réflexions, notamment après 2003, sur faut-il changer le principe du consensus par lequel fonctionne l'OTAN. On ne vote pas à l'OTAN, c'est bien la différence majeure avec l'Union européenne. À chaque fois, et à l'époque c'était les États-Unis et la Grande-Bretagne qui étaient un petit peu frustrés et qui voulaient aller plus loin, à l'époque c'est les conseillers de Bush qui ont dit « Ok, l'OTAN ça va lentement, mais ça va plus loin ». Je pense qu'il faudrait peut-être aujourd'hui adopter cette espèce de pas en arrière et se dire « Oui, il faut peut-être réfléchir à nouveau sur le principe de consensus, mais, et ça, peut-être l'annonce allemande du groupe d'experts est une bonne nouvelle, mais peut-être déjà commencer par revoir à ce moment-là le concept stratégique de 2010 qui lui aussi a vécu, qui permettrait en fait de débloquer une grande partie de ces problèmes-là en regardant l'ordre du monde tel qu'il ne va plus.
Jean-Pierre Molny, très rapidement.
Il sera sans doute fait une réflexion sur le futur de l'OTAN. Il y aura effectivement consensus parce qu'il y a un intérêt de toute façon de la France, de l'Allemagne d'un côté et des États-Unis de l'autre, de contenter les pays d'Europe centrale et les pays du nord de l'Europe. Donc c'est ce qui fera qu'il y aura consensus. Maintenant, je pense que sur le futur de l'OTAN, la situation stratégique a tout à fait changé. L'OTAN, en tant qu'alliance militaire, la partie militaire fonctionne très bien. Sur la partie politique, je pense que malheureusement, les intérêts stratégiques des uns et des autres divergent. Et ça va être quand même extrêmement difficile à résoudre à l'avenir.
Merci. C'est la fin de Géopolitique. Jean-Pierre Molny, je rappelle que vous êtes directeur adjoint de l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques. Merci aussi, général Jean-Paul Pérusse, ancien directeur général de l'État-major de l'Union européenne, et Guillaume Lascandjarias, historien militaire, chercheur associé à l'IFRI et ancien chercheur au Collège de défense de l'OTAN. Géopolitique était signé Marie-France Chatin, Véronique Durand et Nathalie Laporte. À samedi prochain.
Priorité santé.